Et il est 19h presque 22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Alors voici quelques cas d'école et je suis prête à parier qu'on n'est pas loin de la réalité, voire pile dedans. Demain ou après-demain, vous apprendrez que l'institutrice de votre fils est positive. Bien, y a-t-il quelqu'un pour la remplacer? Eh bien, pas forcément. C'est pas votre jour de télétravail et le job de votre conjoint ou votre conjointe n'est pas compatible avec le télétravail. Comment allez-vous jongler en attendant que l'instit revienne avec un test négatif? Cas numéro 2, ça c'est pour votre fille cadette, un cas positif dans la classe. Ah, il va falloir faire un PCR tout de suite et puis enchaîner les autotests à J+2, à J+4, mais aussi compter sur l'honnêteté de tous les parents de la classe. Sinon, forcément, tout le monde à un moment sera positif à son tour. Dans les entreprises, on fait même calcul. Un positif à la maison, c'est être cas contact, donc télétravailler. Et là aussi, PCR, puis test J+2, J+4 avant de revenir. Si on a juste été cas contact du gars de la compta, mais là aussi, si vous êtes positif, vous rendrez de toute façon toute votre famille cas contact et rebelote. Bref, tout ça fait mal au crâne et c'est pas un effet secondaire, c'est juste un état de fait. Vous allez me raconter, nous raconter, comment vous faites, ce qui vous semble impossible à mettre en place, si vous avez anticipé avec une escadrille de cas contact et d'organisation qui suit, comment ça se passe avec l'école, avec l'employeur. Il y a ce qui vous semble fluide, il y a ce qui vous fait peut-être sortir de vos gonds, ce qui vous interroge, parce que franchement, vous ne savez pas comment vous allez faire et le temps que cette vague passe. Allez, c'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et Denis, c'est vous le premier jongleur, si je puis dire. Bonsoir Denis, soyez le bienvenu, bonsoir.
Ah bonsoir, c'est gentil. Merci pour vos émissions, déjà. Voilà, moi j'ai deux enfants. L'institutrice est positive, donc pas d'école. Et moi je peux pas télétravailler. Donc comment ça se passe à partir de ce moment-là? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je mets en arrêt maladie? Est-ce que l'employeur paye? Voilà, quelle est la solution en fait?
Qu'est-ce que votre employeur vous a répondu déjà, Denis, quand vous l'avez appelé ce matin?
Ah bah, il m'a répondu que c'était le bazar, parce que si je travaille pas, la boîte ne marche pas.
Et du coup, il vous a pas précisé s'il pouvait, si vous alliez être indemnisé, si vous devez vous mettre en maladie?
Non.
Il vous a rien précisé pour l'instant.
Non, et il
vous
m'a pense... rien dit.
Et il vous a rien dit parce qu'il le sait pas lui-même, vous pensez? Ou
Ouais, je pense, oui. C'est pas de la mauvaise foi.
Eh ben, écoutez, on va essayer de voir si on peut vous aider, Denis. Ça tombe bien parce que vous êtes typiquement, pardon, hein, dans le genre de cas qui nous intéresse ce soir, parce qu'on va essayer de jongler entre l'école et aussi l'entreprise, mais l'un ne va jamais sans l'autre, précisément dans des cas comme cela. Et pour discuter ensemble, Carole Zerbide est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes proviseur adjointe au lycée Voltaire à Paris, vous êtes membre de du SNPDEN, si je ne me trompe. Marie-Hélène Plard est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes directrice de l'école maternelle Samira Bellil, c'est à Saint-Denis, et vous êtes responsable du SNU-FSU. Et Audrey Richard est avec nous également, bonsoir. Vous êtes présidente de la NDRH, donc vous êtes dans l'autre volet du problème de notre ami Denis. D'abord, Carole Zerbib, on a envie de dire à Denis que oui, il est typiquement dans le genre de situation. Est-ce que chez vous, ça arrive quand un prof n'est pas là? Est-ce que vous pouvez dire, mais on va le remplacer? Ou est-ce que vous êtes dans l'incapacité de dire, chaque prof absent pourra être remplacé, donc les enfants n'auront pas besoin de rentrer, ils pourront au moins rester à la... comment on appelle ça?
En permanence,
pardonnez-moi. Voilà.
Alors, c'est pas nous hein, qui faisons les remplacements.
Bien sûr que non.
D'abord, déclarer le professeur absent. Dans l'éducation nationale, en tout cas dans le second degré, les remplacements se font à partir de 15 jours d'absence du professeur. Donc on ne remplace pas au pied levé.
Si
le professeur est absent lundi matin, on n'a pas quelqu'un qui va le remplacer lundi après-midi. Voilà, ça c'est la première chose.
Et pardonnez-moi, puis... le grand paradoxe dans un cas comme celui-ci, c'est que dans 15 jours, il ira beaucoup mieux, ce prof qui est positif là. Bon, enfin, bon,
oui, voilà. Puisqu'il est censé revenir
au bout de 7,
de
si
7
bien,
jours, donc, au mieux 5 jours, voilà, en fonction de son statut vaccinal. Alors, au lycée, ça va plutôt parce que les élèves, quand un professeur est absent, ils peuvent quitter l'établissement.
Ils sont grands.
Au collège, voilà, ils sont grands. Au collège, c'est un petit peu plus compliqué. Ce matin, on a eu des élèves qui ont eu 2 à 3 heures de permanence dans la journée, parce qu'il n'y avait pas d'enseignants, et que voilà, il n'y a pas d'autre solution que de les mettre tous dans une salle de permanence. La question, c'est combien de temps on va pouvoir tenir avec des personnels qui tombent malades au fur et à mesure pour accueillir sereinement les élèves et garantir aussi leur sécurité dans l'établissement.
Ce matin, par exemple, en arrivant, vous aviez combien d'enseignants absent pour cause de Covid ?
Une dizaine.
Une dizaine ? Vous avez combien de profs en tout ?
Il y en a 120.
D'accord, c'est beaucoup, 10 profs sur 120, c'est beaucoup, c'est vraiment vraiment beaucoup fois. Je vais revenir vers vous Audrey Richard, mais j'ai envie, Marie-Hélène Plard, de vous poser la même question, vous qui avez des tout-petits. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand on est dans un cas comme celui de Denis ? Est-ce que vous êtes contrainte de rappeler les parents en leur disant il faut venir récupérer le petit parce que l'institut n'est pas là et on n'a pas d'autre solution ?
Alors c'est surtout que on n'a pas d'autre solution parce que là il y a plus de remplaçants, c'est pareil hein, nous dans le premier degré nous ne gérons pas, on déclare les absences des enseignants et après l'administration envoie ou non des remplaçants. Alors en ce moment c'est plutôt ou non, juste pour vous donner un petit ordre d'idée là sur le département de la Seine-Saint-Denis, on estime juste pour la journée du 3 janvier à peu près 600 classes qui n'ont pas accueilli d'élèves faute de remplaçants. La difficulté à laquelle on est confronté depuis ce jour, c'est que les modifications du protocole nous interdisent d'accueillir en fait les élèves en les accueillant dans d'autres classes pour ne pas les mélanger. Donc de fait, les parents se retrouvent dans l'obligation de les récupérer. Et par rapport à l'intervention du monsieur précédemment, il y a effectivement un flou. En tout cas, nous, aucune information ne nous a été donnée parce que premier réflexe que j'entends tout à fait, les parents se tournent vers nous pour avoir au moins une attestation pour leur employeur, pour pouvoir justifier cette absence. Et je pense qu'aucun cadre pour l'instant est réellement prévu parce qu'on n'a reçu aucun document, nous, type, voilà, au niveau des directions d'école. Donc là, on bricole, voilà, pour pas que les gens se retrouvent dans une situation complexe vis-à-vis de leur employeur. Mais on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler pour nos parents d'élèves qui sont parfois dans cette très grande difficulté.
Si on regarde la bouteille à moitié pleine, est-ce qu'on se dit que le premier jour, effectivement, c'est compliqué parce qu'il vous manque un certain nombre peut-être d'attestations, il y a, pardon, c'est terrible à dire comme ça, une routine que vous n'avez pas, c'est quand même une drôle de routine, mais et on se dit que d'ici une semaine, il y a un certain nombre de choses qui pourront se mettre en place, et notamment d'ailleurs les parents vis-à-vis de leurs employeurs également. Est-ce qu'on se dit que donc ça ira mieux dans la semaine, ou est-ce qu'on se dit plutôt, Marie-Hélène Plard, que ce sera de pire en pire?
Alors, ce qui nous inquiète, si vous voulez, alors peut-être, on espère qu'on obtiendra, si vous voulez, les documents et que certains accords seront passés. Après, c'est effectivement très inquiétant d'avoir autant d'absences non remplacées dès une première journée. Et si vous voulez, alors certes, hein, c'est mathématique, il y a de plus en plus de gens dépistés, positifs au Covid, donc les enseignants, comme tout à chacun, le sont aussi. Mais on assiste aussi à des congés programmés. Voilà, en Seine-Saint-Denis, il y a des congés maternité, donc connus et annoncés de longue date à l'administration, qui ne sont pas remplacés non plus. Donc on est effectivement très très inquiets sur les jours à venir.
Audrey Richard, pour revenir à la question de base de Denis, en effet, il n'a pas d'attestation entre les mains, les chefs d'établissement, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire, n'en ont pas pour l'instant. Comment il fait Denis pour ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de son employeur ?
C'est vrai qu'en entreprise, on a deux types de populations, hein. Les salariés qui peuvent télétravailler. Et donc là, on peut trouver un aménagement dans son organisation de travail. Et nous avons les salariés qui ne peuvent pas télétravailler, comme Denis. Et là, c'est en effet plus compliqué. Ce qu'on a vu dans les informations communiquées à ce stade, notamment en cas d'enfants ayant le Covid, on voit que l'activité partielle, le chômage partiel, peut être demandé par l'entreprise. Donc ça peut être en effet une possibilité en fonction de l'état de santé de son enfant. J'invite Denis à aller discuter avec avec son DRH s'il en a un. Et sinon, après, utilisation des congés, ça peut être une solution, même si c'est vrai que c'était pas ce qui était prévu initialement pour des congés. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là.
Parce que le partiel, on comprend ce que que ça veut dire, mais ça s'anticipe, en fait. Quand là, il se lève le matin, il se rend compte que c'est pas possible, j'imagine que c'est ouais. compliqué à mettre en place, non seulement immédiatement, mais surtout pour un temps très limité, en fait, parce que si ça se trouve, dans deux jours, les choses vont rentrer dans l'ordre pour l'enfant de Denis. C'est possible, ça? Il y a cette flexibilité ou ça me paraît compliqué?
Aujourd'hui, en entreprise, tout le monde s'adapte. Ouais. Tout le monde fait des efforts. Les salariés, les partenaires sociaux, les managers, tout le monde. Et on sait trouver des solutions. On est dans une situation inédite, donc la souplesse est demandée par le gouvernement. La souplesse est une réalité en entreprise également. Hein. Donc de toute façon, vous savez, nous en entreprise, on gère le collectif, mais on sait aussi gérer des situations individuelles quand on est confronté à cela.
Et c'est vrai que c'est complètement différent de ce qui avait pu se passer effectivement en première vague où tout le monde s'est retrouvé à la maison, donc au moins la situation était, j'allais dire, très très inédite, parfois très inconfortable, mais au moins claire pour tout le monde. Le grand paradoxe, c'est que plus on est une grosse boîte, plus c'est facile, en fait, non, Audrey Richard? J'imagine que notre ami Denis, par exemple, travaille dans une entreprise où ils sont, je sais pas s'ils sont trois, s'ils sont quatre, s'il y en a un qui est pas là, ça déstabilise intégralement l'entreprise, c'est pas pareil.
Bien sûr, c'est difficile. Mais c'est aussi pour ça, de notre point de vue au sein de la NDRH, que le message sur le télétravail a été aussi clair et qu'aujourd'hui c'est une obligation, parce qu'on a pu se rendre compte que justement de petites structures n'avaient pas encore passé le cap du télétravail, et au regard de l'évolution de l'épidémie, il était vraiment important que toutes les entreprises puissent mettre en place ce mode d'organisation.
Marie est avec nous, bonsoir Marie.
Bonsoir.
Ah, ben il y a du télétravail et de l'enfant à la maison derrière.
Oui.
On vous écoute.
Moi je suis prof dans un collège en Seine-Saint-Denis. Et ce matin, avant d'arriver en cours, mes collègues m'ont annoncé que mes deux chefs d'établissement étaient malades du Covid, que la conseillère principale d'orientation, la CPE était absente également. Donc on n'avait personne de la direction pour gérer le collège. On n'avait que 3 surveillants pour 640 élèves. Moi, la classe où je suis prof principale, il y a 4 profs de l'équipe qui sont malades. Donc, mes élèves, ils ont passé la journée à alterner des cours et des trous. Et puis, l'institutrice de mon fils m'a appelée parce qu'il y avait un cas positif dans la classe et qu'il fallait que j'aille chercher mon fils. Et j'appréhendais énormément.
Pardon Marie, mais quand ça veut pas, ça veut pas la journée là, c'est terrible pour vous.
Ah non, c'est vraiment terrible. Et je suis partie faire tester mon fils à la pharmacie, j'avais des élèves à moi dans la queue. Enfin, c'est... Et on perdait des élèves de toute façon, entre la première heure et l'heure du midi, on avait des élèves qui étaient partis parce qu'ils étaient malades. C'est la première fois, ça fait 2 ans qu'on vit la pandémie, c'est la première fois qu'il y a autant d'élèves malades, autant de collègues malades. Et c'est hyper inquiétant de retourner. J'ai pas peur de tomber malade parce que je fais très attention, mais j'ai peur de faire cours, j'ai peur de subir ce stress. Le collège, il est pas très bien construit, donc c'est un endroit un peu dangereux et où 600 élèves peuvent courir dans les couloirs et qu'il n'y a que 3 surveillants. C'est vraiment devenu une situation très inquiétante. Et la DSDEN nous a annoncé qu'on aurait peut-être un renfort en vie scolaire à la fin de la semaine. Mais c'est juste pas possible de continuer à travailler dans ces conditions.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Marie-Carole Zerbit. Vous n'en êtes pas là, vous, mais dans votre établissement, heureusement. Mais on voit très bien, dans ce que décrit Marie, effectivement, on a l'impression qu'il y a tout qui lâche, en fait.
Ben voilà, c'est bien cela hein, que l'on craint, c'est cette désorganisation due à une absence massive de personnel. C'est vrai qu'un établissement qui fonctionne sans direction, c'est compliqué. S'il manque des personnels d'encadrement, c'est compliqué. Pour la gestion, et ce que je disais tout à l'heure,
si
la gestion,
malade,
l'accueil
vous,
et la sécurité des élèves.
Si vous tombez malade, vous, qu'est-ce qui se passe, par exemple? Il y a du monde derrière vous pour prendre votre place ou pas, pour assurer?
Il n'y a pas vraiment de remplacement de personnel de direction. Ça, c'est pas... on peut remplacer des enseignants, remplacer un personnel de direction, c'est un peu plus difficile. Si je tombe malade, je ne suis pas là et personne ne fera le travail à ma place.
Elle parlait, Marie, de sa peur, non pas de tomber malade, effectivement, elle le dit très bien, mais de sa peur du stress, en fait. Est-ce que vous avez... d'un environnement qui n'est plus du tout un environnement environnement sain, en fait, à l'intérieur de son lycée ou de son collège. Est-ce que vous avez dû avoir cette conversation avec certains de vos collègues professeurs aujourd'hui pour les rassurer?
Oui, il y a des enseignants qui sont inquiets de cette situation et particulièrement de cette désorganisation. Je crois que plus que le virus qui circule, il y a cette désorganisation du service public d'éducation qui serait causée par un trop grand nombre de gens malades et qui empêcherait un accueil et un encadrement des élèves dans de bonnes conditions.
Est-ce que vous avez peur de ça, qu'à un moment effectivement vous soyez dépassé en fait par le nombre de cas et que effectivement vous n'êtes plus sûr de les accueillir dans de bonnes conditions? Bonnes conditions, ça veut aussi dire bonnes conditions de sécurité.
Tout à fait.
Est-ce que dans ces cas-là vous vous dites là il faut fermer? Qu'est-ce que vous imaginez?
Effectivement, c'est une crainte. Voilà, c'est une crainte. Alors avant la fermeture, il y a peut-être d'autres étapes dans le protocole sanitaire. On est en lycée, en collège, on en est au niveau 2. Il y a encore le niveau 3 et le niveau 4. Le niveau 3 particulièrement qui permet l'accueil des élèves en demi-jauge. Donc avant la fermeture, je pense que vraiment il faut envisager les situations alternatives qui nous sont possibles.
Alors c'est-à-dire, ça veut dire est-ce que vous vous dites à un moment ou à un autre on va devoir repasser au distanciel parce que le présentiel n'est plus gérable? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Les vôtres sont plus grands, donc est-ce que c'est envisageable?
Peut-être d'abord la demi-jauge avant le distanciel complet. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment éviter une fermeture de l'école. Ça, effectivement, il faut qu'on arrive à l'éviter. Maintenant, à un moment, si c'est vraiment plus tenable, ce sera peut-être la seule solution.
Ce qui n'est pas votre cas, Marie-Hélène Plard, vous avez des enfants en école maternelle. Donc évidemment, ça rend les choses nettement plus compliquées. Est-ce que vous avez la même crainte qu'à un moment, le débordement, le chiffre, il dit qu'à un moment, un tiers des professeurs pourraient être touchés d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment de la statistique, et donc c'est très crédible. Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, on tiendra pas de toute façon, il faudra bien fermer? Est-ce que ça vous traverse votre esprit, ça, ou pas?
Alors oui, je partage le constat de l'interlocutrice précédente sur la désorganisation totale du service public d'éducation. Le nombre d'absences et le fait qu'il y a eu, enfin, à un moment, faut le dire aussi, l'absence de remplacement n'est pas que lié au Covid. Il y a un moment, il y a eu un désinvestissement, un désengagement du ministère et en tout cas, il y a eu un manque de préparation par rapport à ça parce qu'on trouve pas des remplaçants et des enseignants comme ça non plus. Ça, c'est un leurre total qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Quand je vous disais qu'à un moment, c'est aussi des congés programmés qui ne sont pas remplacés, c'est que réellement, il y a un manque d'anticipation qui est criant. Ce qui, là, nous inquiète sur la désorganisation, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a des classes qui vont ne pas avoir classe du tout, parce qu'à un moment, quand un enseignant est malade, il n'y a pas de distanciel, il n'y a rien d'autre. Voilà, les enfants sont à la maison avec leurs parents, sur des temps plus ou moins longs, suivant les motifs de l'arrêt. Mais on voit aussi qu'on a ce qu'on n'avait pas trop jusqu'à présent, mais énormément d'élèves absents dans les autres classes. Et donc, il y a un roulement permanent. Et là, nous, ce qui nous inquiète fortement, c'est qu'effectivement, cette désorganisation, elle va avoir un impact réel sur les apprentissages des élèves. C'est-à-dire qu'on là, on a un discours très médiatique de on va combattre les inégalités scolaires parce qu'on maintiendra coûte que coûte les écoles ouvertes, on ne fermera plus de classes. Sauf que déjà, on voit que c'est faux. Là, c'est pas des fermetures liées au Covid, mais en attendant, il y a eu 600 classes aujourd'hui en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas eu cours. Moi, ce matin, dans mon école de 6 classes, j'ai renvoyé 50 élèves. Voilà, parce que faute de remplacement. Et pour une semaine, parce que là, pour le coup, c'est des collègues qui ont attrapé le Covid, donc qui sont arrêtés entre 5 ou 7 jours, mais de toute façon, même 5 jours, ça fait la fin de la semaine. Voilà. Donc, de fait, ils auront une semaine en moins. Mon fils, parce que moi, je suis comme l'enseignante, n'avait pas non plus de classe aujourd'hui. C'est la troisième semaine depuis le mois de septembre. Et c'est un élève de CM2. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est à un moment, on ne mesure pas, et le ministère ne mesure pas, que cette non-gestion et ce refus d'investissement va avoir des conséquences très lourdes sur les apprentissages des élèves. Et ça nous inquiète terriblement.
Alors, retour à l'entreprise avec cette question qui est pour vous, Audrey Richard, c'est celle de Claire. Bonsoir Claire.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci de me recevoir. J'ai une petite question. Mon employeur est totalement opposé au télétravail. Et il nous a...
Et on vous a perdu, Claire. Enfin, est-ce qu'on vous a perdu définitivement ou pas? Est-ce que vous êtes là? C'est pas grave, on a de la ressource. Bonsoir, Christine.
Oui, allô?
On vous écoute, Christine, allez-y.
Oui, bonjour. Donc, je suis à la tête d'une TPE sur la région de Montpellier. Et donc, j'ai pris sous mon aile une apprentie, voici moins de 3 mois. Donc, elle est 3 jours par semaine donc à notre entreprise, 2 jours à son centre de formation. Donc, elle est apprentie pour une formation de BTS, gestion de l'entreprise. Donc, pour moi, en fait, si je lui demande d'être en télétravail, je vais passer mes journées à scanner des documents pour elle. Pour contrôler son travail, je vais devoir être constamment derrière mon ordinateur pour vérifier. Je n'ai plus aucun moyen de formation. En fait, je vais passer mon temps à la former et non plus à être face à mes responsabilités autres que l'accueillir dans mon entreprise. Je ne peux pas la mettre en chômage partiel puisque elle a 3 mois dans mon entreprise. Donc je vais être obligée de passer outre la loi. Je ne peux pas lui demander de rentrer chez elle sans salaire. Donc je suis obligée quand même de la conserver en cours en formation dans mon entreprise.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Christine. Audrey Richard, c'est ça aussi la souplesse, en fait, parce qu'on comprend très bien ce que nous dit Christine. Soit c'est raté de toute façon pour l'apprenti comme pour la TPE, soit on arrive à trouver un moyen qui contourne effectivement la loi.
Oui, alors le message du télétravail est quand même très clair. Il y a obligation de mettre en place le télétravail pour toutes les entreprises, avec évidemment les métiers qui le peuvent, sur 3 ou 4 jours. Maintenant, ça c'est la règle, et en entreprise, les DRH, les managers gèrent cela de façon collectivement, c'est comme ça qu'on gère. En revanche, évidemment, il y a toujours des situations individuelles particulières, et nous savons gérer les situations individuelles particulières. Et dans le cas présent, Christine, moi, en tant que DRH, je considérerais que c'est une situation particulière. Et là, je vous inviterais à regarder comment l'organisation peut être adaptée en ne faisant pas venir l'apprenti tous les jours d'entreprise en entreprise, mais en essayant de trouver une flexibilité pour que le travail soit réalisé, pour que l'apprentissage du jeune puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc, il y a la règle. Mais il y a aussi des situations individuelles qu'on sait gérer. Il y en a eu pendant le confinement, on a géré les situations individuelles. Il y en a aujourd'hui, on sait les gérer. Donc je vous invite vraiment à regarder avec cet angle de vue-là.
La crainte de l'absentéisme, je reviens à nos amis professeurs aussi, parce qu'effectivement c'est vraiment l'effet boule de neige. Si les enfants doivent retourner à la maison, il faut bien que les parents s'en occupent. Est-ce que la crainte de l'absentéisme, c'est quelque chose d'important en entreprise, là, pour cette semaine qui vient? Pas forcément visible aujourd'hui lundi, pas forcément mardi, mais peut-être au fil de la semaine.
Ouais, on a vu cet effet de l'absentéisme juste avant les vacances de Noël, juste en fin d'année. Donc on a vu cette croissance importante qui a été gérée dans les entreprises. Aujourd'hui, bon, en effet, on est lundi, on n'a pas encore ces sonnettes d'alerte dans nos entreprises. En revanche, c'est vrai que la flexibilité du télétravail permet une organisation plus facile, d'une part, et d'autre part, les raccourcissements de délais d'isolement pour les cas contacts ou positifs nous arrangent carrément en entreprise. Ça, faut le dire. Ça nous permet vraiment d'organiser le travail de façon plus facile. Donc, je dirais qu'en tout cas, à ce stade lundi, ça va plutôt bien. Et par contre, j'aimerais intervenir sur la question précédente de la personne qui était vraiment inquiète et stressée sur son environnement de travail. Donc moi, je ne peux pas évidemment parler pour les structures scolaires que je ne connais pas. En revanche, en entreprise, le dirigeant, le DRH est responsable de la santé et sécurité de ses collaborateurs. Et ça fait 2 ans que les protocoles ont été adaptés sanitaires en entreprise, avec des gestes barrières, le gel, les affichages, siège, les ascenseurs restreints, tout un tas de dispositifs, l'aération, etc. Et en tout cas, en entreprise, ce stress, il peut être évidemment ressenti par quelques personnes, mais globalement, on ne ressent pas cela parce que l'entreprise, et on l'a vu, il n'y a pas eu de surcontamination d'entreprise. Et donc l'entreprise est un lieu plutôt, alors sécurisant, c'est difficile de dire cela évidemment, mais en tout cas ce stress que j'ai pu entendre juste avant, nous on l'a pas de cette façon-là. Évidemment, certaines personnes individuellement peuvent stresser, et là on a la communication interne, l'explication qui peut jouer. Mais voilà, je voulais souligner ce point de différence.
Et vous avez bien fait. On a retrouvé Claire. On va l'interroger dans une toute petite seconde. Écoutez son appel et sa question. Avant, j'ai sous les yeux une question de Sarah sur franceinter.fr, et c'est pour vous, Carole Zerbide. Elle dit ceci: j'ai dû faire tester mon fils cet après-midi parce qu'il est cas contact. La pharmacienne m'a indiqué que si le résultat était négatif, je devais lui faire un test à J+2 et à J+4, mais que je devais acheter la boîte puisque les pharmacies n'avaient pas encore reçu d'instruction de la sécurité sociale. Là aussi, j'ai l'impression d'entendre en fait dans ce témoignage ce qu'on disait précédemment sur le fait qu'il n'y a pas d'attestation pour l'instant, en fait. Donc c'est d'ailleurs ce sentiment qu'il y a un protocole qui est prêt pour un lundi, mais qui n'est pas prêt pour un lundi, en fait.
Ben, c'est ça que ça veut dire. Le protocole nous a été diffusé tardivement hier soir.
Et c'est pareil pour les pharmaciens, voilà, et la gratuité, parce que théoriquement les tests, les autotests, ils sont censés être gratuits pour les parents. Visiblement,
voilà,
c'est pas
ça,
encore.
Il y a un manque d'anticipation là, parce que hier soir pour ce matin, je pense que c'est compliqué pour l'école et pour les pharmacies.
Il y a aussi cette question pareil sur franceinter.fr. J'essaye de trouver le prénom, je ne le trouve pas. Hélène, voilà, je suis enseignante dans un collège dans lequel on ne fournit aux professeurs d'autres masques que les masques en tissu. Mon intendant est un homme de très bonne volonté. Il m'explique qu'il n'a pas le budget pour en acheter, les masques chirurgicaux. Est-ce qu'une protection adaptée permettrait aux professeurs aux professeurs de tomber moins malades et peut-être d'être moins absents? Qu'est-ce qui se passe chez vous, par exemple, au niveau des
masques? En effet, la dotation que nous avons, ce sont uniquement des masques en tissu. Il y a des masques en papier, mais uniquement pour les personnels vulnérables. Donc là aussi, on a une dotation. Alors oui, effectivement, les établissements qui ont les moyens peuvent acheter des masques. On n'a pas tous les mêmes moyens selon les établissements.
Mais on sait bien aujourd'hui, c'est ça qui est très paradoxal, on sait bien que les masques en tissu, ça marche pas. Pour le coup, on se souvient bien du tâtonnement, mais désormais, au moins, ça c'est des choses qui sont claires au bout de 2 ans d'épidémie. Masques en tissu, efficacité très moindre.
Alors je crois que ceux qui ont été dotés par l'éducation nationale sont des masques qui sont quand même reconnus pour marcher. C'est pas des masques bricolés.
On est d'accord. Ils ont pas été fabriqués dans une cave par une grand-mère, mais enfin, néanmoins. Il y aura une question d'ailleurs masque qui reviendra, et ce sera pour vous, Marie-Hélène Plard, peut-être. En attendant, puisqu'on a retrouvé Claire, je la salue à nouveau. Bonsoir Claire.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Mon employeur aujourd'hui nous a concédé une journée de télétravail. Il est complètement opposé au télétravail, et je voulais savoir si le fait d'avoir une journée au lieu de 3, comme indiqué par la ministre du Travail, le mettait à l'abri d'une amende quelconque.
Alors, sans dévoiler qui est votre employeur, vous travaillez dans quel type de secteur, Claire ?
Alors, je travaille dans l'industrie, et nous sommes une cinquantaine de personnes à pouvoir prétendre au télétravail, donc des services comme les ressources humaines, la logistique, l'administration des ventes, la partie commerciale. Toutes ces personnes sont bien sûr éligibles au télétravail.
Et vous aviez déjà télétravaillé dans les mois précédents. Ok.
Oui.
Audrey Richard, là pour le coup, passible d'une amende, non ?
Là, alors je suis désolée, mais le message est clair. Il y a obligation à partir d'aujourd'hui, de mettre en place le télétravail dans les entreprises à hauteur de 3 à 4 jours. Le message a été donné il y a une semaine, justement pour nous permettre d'anticiper cette mise en place, de communiquer auprès des collaborateurs, des managers, de s'organiser. Donc, on peut comprendre que certaines entreprises ne souhaitent pas, considèrent que c'est compliqué de télétravailler. Ça peut l'être, en effet. Maintenant, il y a cette obligation, donc votre employeur doit se conformer à cette obligation. Et après, il peut avoir cette possibilité entre 3 et 4 jours. Mais oui, il y a obligation. Enfin, le message est très très clair.
Plus de contrôle, on y croit à ça, réellement plus de contrôle.
Il a été annoncé, en effet, effet plus de contrôle. Donc on s'attend en effet à ce qu'il y ait des contrôles. Mais là, en l'occurrence, dans votre situation, je pense qu'il faut ouvrir le débat avec votre employeur, avec les ressources humaines qui sont tout à fait au fait de ce qu'il faut faire.
Sarah est avec nous. Bonsoir, Sarah.
Oui, bonsoir.
Qui rejoint le dialogue que nous avions à l'instant avec Carole Zerbi. On vous écoute.
Oui, j'avais juste une question à poser à propos d'un geste barrière qui marche très bien, qui est plus fatigant, c'est le FFP2. Donc là, j'ai pris les médecins en cours et quand j'entends dire que des collèges, des lycées sont ou des écoles désorganisées parce que le personnel positif ne peut plus être présent devant les élèves, je voudrais savoir si on a éventuellement pensé à proposer le FFP2 aux adultes positifs, asymptomatiques et qui sont en forme. Parce que c'est vrai qu'il faut parler un petit peu plus fort, c'est plus fatigant, mais en même temps, c'est pas pour 3 semaines. Mmh. Voilà, c'est un geste très simple qui marche très très bien. Aucun personnel de santé n'est mort étouffé en portant le FFP2, donc pourquoi ce n'est pas proposé au personnel des écoles.
Merci pour cette question, Sarah. On va vous la poser à toutes les deux. Marie-Hélène Plard, s'agissant des masques chez vous, par exemple, où en êtes-vous? Est-ce que le FFP2, parce que ça vient effectivement beaucoup dans les conversations en ce moment, c'est chacun se l'achète s'il le veut sur ses deniers, mais de la part de l'Éducation nationale, rien.
Ben voilà, vous avez tout à fait répondu à la question. Donc on a la dotation en masque tissu. Alors effectivement, c'est pas du masque bricolé, mais en attendant, si vous allez à l'hôpital avec ce type de masque, on vous demande de porter. Voilà, c'est interdit. Donc ça questionne quand même sur effectivement la protection de ce type de masque. Et après, bah, très clairement, hein, sur la plupart des écoles, les enseignants portent des masques chirurgicaux, voire des FFP2 pour certains et sur qu'ils achètent sur leur propre denier. Mmh. Et c'est une demande qui a été réclamée de longue date auprès du ministère de l'Éducation nationale, qui répond que de toute façon les FFP2 sont exclusivement réservés aux soignants, ce qui n'empêche pas monsieur Blanquer d'en porter lui-même. Mmh.
Donc, on en trouve en pharmacie, donc effectivement chacun peut en porter.
De fait, je peux vous le dire, j'ai des collègues qui en portent, oui, sauf que comme le rappelait une des intervenantes sur le plateau, à un moment, ça fait aussi partie des obligations de l'employeur de garantir, de prendre en tout cas toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Et c'est pas ce sentiment-là qu'on a au niveau des personnels de l'Éducation nationale, parce qu'effectivement, voilà, le matériel qui nous est distribué est assez sommaire. Et en plus, nous, la particularité des écoles dans le premier degré, c'est qu'après, sur la gestion des locaux et tout un tas de choses, on relève des collectifs locales. Et donc on assiste depuis 2 ans à un renvoi de balles entre ministères et collectivités locales qui fait que sur plein d'autres mesures type capteur de CO2, purificateur d'air ou ne serait-ce réparation de fenêtres pour qu'elles puissent s'ouvrir, rien n'est fait.
Là-dessus, Carole Zerbi, d'ailleurs deux choses. Un, sur les FFP2, est-ce que chez vous comme ailleurs, certains en portent parce qu'ils l'ont choisi, donc ils les ont achetés sur leur denier, mais est-ce qu'il y a vraiment un débat qui tourne autour des FFP2, effectivement, dans l'établissement? Oui. Sur ça et les capteurs d'ailleurs.
Oui, oui. Donc il y a des enseignants qui choisissent de porter des FFP2, mais pour l'instant il n'a pas été question qu'il y ait une dotation en FFP2. Nous, on est toujours avec notre dotation de masques en tissu. Alors, voilà, sur les capteurs CO2 et les purificateurs d'air, c'est vrai qu'on est en pandémie depuis 20 mois. Ça aurait été bien qu'on
avec
ait une dotation
qui renvoie
massive.
Notamment au département.
Ouais.
Qui renvoie au département.
Oui, c'est les départements, mais il y aurait pu avoir là une intervention de l'État aussi, hein, pour qu'il y ait une espèce de plan d'urgence pour que les établissements soient dotés. Hein.
Une question très pratique, c'est celle de Sébastien. Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Voilà, moi, on est dans une situation un peu compliquée, puisque ma femme et moi avons été malades du Covid pendant les vacances, là, juste avant les fêtes de Noël. La sécurité sociale, alors nos deux enfants sont cas contact, du coup, forcément, et négatifs jusqu'à présent. Normalement, avant que le nouveau protocole ne sorte, ils étaient à l'isolement jusqu'au 8 janvier, donc pendant toute cette semaine. Mais le nouveau protocole ne décrit pas notre situation. Est-ce que notre situation change ou alors est-ce qu'ils peuvent retourner à l'école et au collège moyennant un test?
Alors moi, j'ai l'impression, Carole Zerbide, que oui, c'est ce que je comprends du protocole. Oui. Avec le test et aussi en faire un plus 2 et un
voilà,
plus 4.
Voilà, tout
et théoriquement,
à
ils peuvent retourner à l'école.
Ils doivent faire des tests à J plus 2 et J plus 4.
Eh ben, voilà. Donc, vos enfants vont pouvoir retourner, à l'école. Une question, c'est la dernière, c'est celle de Anne et elle est pour vous, Audrey Richard. Bonsoir, Anne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, je voulais savoir si, dans la mesure où la totalité du personnel est en télétravail, est-ce qu'une seule personne peut aller au travail, au bureau?
Eh bien, c'est une bonne question, parce que j'ai la même, en fait. Si je suis toute seule dans mon bureau, est-ce que j'ai le droit d'aller quand même au travail, puisqu'il n'y a personne d'autre? Alors, même si on dépasse les fameux 3 jours, enfin, qu'on...
Alors,
même si on n'a pas été jusqu'aux fameux 3 jours, pardon.
Moi, j'appliquerai la consigne du gouvernement qui dit « obligation de télétravailler 3 jours minimum ou 4 jours ». Je prendrai la même règle.
Mais même si on est tout seul dans son bureau.
Même si on est tout seul, bien sûr.
Parce que l'idée, c'est d'éviter les contacts.
Oui,
en fait.
C'est d'éviter les contacts dans les transports, d'éviter les contacts peut-être dans les sur les commerces ou dans les restaurants à côté. Voilà, moi je ferais plutôt ça.
Ma foi, Anne, voilà, si vous êtes toute seule dans votre bureau, en tout cas, le conseil d'Audrey Richard, c'est de rester tout seul dans son bureau, de rester chez soi quand même, mais même oui. Si vous êtes toute seule dans votre bureau. Comment ça se passe en salle des profs, Carole Zerbide, par exemple? Est-ce que vous avez changé changé vos habitudes, en effet, parce que ce serait trop bête que la contamination se passe en salle des profs?
Bien, je pense que les enseignants sont très prudents, puis les fenêtres sont ouvertes régulièrement, hein. On sait que l'aération des pièces est importante, et les enseignants respectent la distance. Et même pendant ces temps de repos dans la salle des professeurs, ils portent le masque. Ils sont extrêmement prudents lors du café, lors du traditionnel café.
Par exemple, Marie-Hélène Plard, est-ce qu'il y a une clause de revoyure, pardon de le dire comme ça, au fur et à mesure que ce nouveau protocole Omicron sera mis en place, aura fait ses preuves ou pas? Est-ce qu'il y a une clause de revoyure? Est-ce que vous avez moyen, vous, les professeurs, les directeurs d'établissement et les syndicalistes, d'aller voir au ministère en disant « ça ne marche pas comme ça ». Est-ce qu'il y a cette clause de revoyure ou pas du tout?
Bah écoutez, je sais que les syndicats étaient reçus cet après-midi, ce qui a permis de lever certaines ambiguïtés du protocole, en particulier quand il y avait une exigence pour les enseignants de faire en même temps et du présentiel quand sa classe est là, mais qu'on a des enfants en isolement parce que cas contact ou autre, d'envoyer du distanciel. Donc à un moment, il a été rappelé qu'effectivement, on n'avait pas un don d'ubiquité non plus. Après, je pense qu'effectivement, enfin, j'espère me tromper et que la pandémie recule, mais au vu de la désorganisation subie actuellement, il y a de fortes chances que les choses ne tiennent plus. Et juste, je voulais rajouter un petit mot.
Allez-y.
Par rapport au parce qu'on n'a pas parlé aussi des modifications du protocole, du fait d'avoir des tests immédiats, puis AJ plus 2, puis AJ plus 4.
Ben, j'allais terminer là-dessus, effectivement, parce que je sais pas qui les voit, les tests, en fait. Comment on est sûr qu'il y a bien les tests à J plus 2, J plus 4?
Ah ben ce sera le déclaratif de la part des familles. Il y aurait apparemment, alors je vous cache pas que, en tout cas dans la journée on n'a rien reçu, mais il y aurait une attestation à remplir sur l'honneur de la part des parents. Mais alors moi je suis moi-même directrice d'école, c'était déjà extrêmement complexe, la gestion. Pardonnez-moi l'expression, mais là, ce protocole, ça sent quand même l'usine à gaz. C'est-à-dire que moi, dès cette première journée, parce qu'il y avait déjà des enfants qui étaient cas contact ou positifs, etc., en fait, je passe mon temps à établir des listes avec des dates potentielles de retour, de dates de vérification, de tests, etc. Et ça sera vite, si les enfants tombent de plus en plus malades, ça sera vite intenable pour une seule personne.
Et voilà. Je vois votre collègue dans le secondaire qui fait oui avec la tête, parce que ce sera effectivement difficile. Et j'imagine que dans les entreprises, de la même manière, quand c'est compliqué de télétravailler, la gestion du J plus 2 et J plus 4. Bah écoutez, on souhaite bonne chance à tout le monde et puis on verra effectivement au fil de cette semaine et de la suivante comment les choses s'organisent. Ce sera l'occasion de nous revoir avec grand plaisir. Portez-vous bien.